son d'Europe, Catherine Roland.
If you do not understand or speak English very well, you may bring an interpreter with you.
Bonjour et bienvenue sur Accent, Accent qui s'intéresse à l'école. Aujourd'hui, l'école en débat d'abord au Royaume-Uni. Au pouvoir depuis juin dernier, Theresa May propose une réforme importante avec la multiplication des grammar schools. On le sait, outre-Manche, la sélection est loin d'être tabou. Ces écoles d'élite publique sélectionnent les élèves les plus brillants dès l'âge de 11 ans. Mais la gauche travailliste, elle, se déchaîne contre la réforme. Reportage Marie Billon.
C'est un sujet très épineux auquel l'ex-premier ministre David Cameron n'avait pas voulu toucher. Faut-il multiplier les écoles d'élite gratuites pour permettre à plus de jeunes de recevoir une éducation de qualité. Le programme des conservateurs en 2015 n'en faisait pas la mention, mais peu importe. Theresa May estime qu'elles sont l'équivalent des grandes écoles privées et coûteuses, telles Eton, où David Cameron était élève, et surtout qu'elles sont favorables à la mobilité sociale. Elle-même est allée dans une grammar school. C'est le cas également de Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, lui qui est pourtant farouchement opposé à ces écoles d'élite.
Pourquoi la première ministre veut-elle développer un système qui ne peut qu'être néfaste pour les jeunes. La chance d'avoir des opportunités ne passe pas par une ségrégation des élèves dès 11 ans. Tous les enfants devraient avoir droit à la meilleure éducation possible.
Il existe aujourd'hui 163 grammar schools sur 3500 écoles classiques. Elles sont surtout concentrées dans la région du Kent, juste au sud de Londres, un périmètre où vivent les classes aisées. Et l'un de ces établissements est la Townley Grammar School. Desmond Dehan en est le proviseur.
Le débat actuel n'est pas sain, il y a trop d'affects. Alors c'est vrai qu'actuellement, la majorité des élèves des grammar schools vient des familles aisées, mais c'est à cause de l'emplacement des établissements. C'est l'interdiction qui a créé ces inégalités. Il y a d'autres problèmes aussi. À cause de la forte demande, certaines écoles appliquent un processus de sélection ultra rigide. Elles distribuent les places disponibles à ceux qui ont les meilleures notes, ce qui avantage ceux dont les parents ont les moyens d'offrir des cours particuliers. Can come to the school, it's based on distance.
La Townley Grammar School et d'autres préfèrent accepter tous les élèves qui ont une note supérieure à une moyenne donnée. La seule condition est que les enfants vivent dans le périmètre scolaire. Mais cela engendre de longues listes d'attente et le système n'apaise pas les critiques. Pour les opposants, il faut améliorer la qualité de l'éducation dans toutes les écoles plutôt que de séparer les bons des moins bons élèves et leur offrir une éducation de qualité différente. Mais Desmond Dehan ne voit pas les choses ainsi.
L'éducation nationale a mesuré les progrès des élèves ayant des capacités scolarisés dans des établissements classiques. Ils sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Quand une classe est diversifiée, avec des jeunes dissipés, d'autres qui ont des difficultés et d'autres qui s'en sortent bien, vous laissez les meilleurs se débrouiller tout seuls, finalement, pour vous concentrer sur les autres. Donc, en fait, en sortant les meilleurs de ce système, vous permettez aux ressources d'être mieux employées.
Mais le problème reste entier. À seulement 11 ans, peut-on vraiment savoir si un enfant est brillant ou non, et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas performants sous la pression des examens? Fiona Bryant, chercheuse au centre de réflexion conservateur The Bow Group, avoue elle-même avoir été une élève très moyenne jusqu'à ses 15-16 ans. Elle est pourtant pour la levée de l'interdiction.
Je ne pense pas qu'on cherche seulement à ressusciter le modèle des grammar schools des origines, celle des années 50. Ce qui serait super, c'est d'introduire le contrôle continu, garder l'examen d'entrée à 11 ans, et par la suite, si un élève montre des signes d'excellence, on lui permettra alors de rejoindre une de ces écoles d'élite.
Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore détaillé son projet, mais beaucoup resteront philosophiquement opposés au concept de ces écoles d'élite.
Et le débat est juste à l'opposé, en Suède, où le système britannique fait fureur. Il faut dire que les Suédois ont dégringolé dans le classement PISA de l'OCDE. Ils ne se situent qu'au 38e rang, loin derrière leurs voisins finlandais. Et les parents remettent en cause le modèle suédois très libéral en matière d'éducation. Si les communes allouent la même somme par enfant, quel que soit l'établissement, des écoles dites libres viennent désormais concurrencer cet enseignement traditionnel. Et ce sont les écoles privées à l'anglaise qui sont prises d'assaut. Reportage de Sébastien Orion à Stockholm, dans l'une de ses nouvelles écoles.
À une dizaine de minutes du centre de la capitale, dans une zone en pleine rénovation urbaine, se trouve la toute nouvelle école internationale anglaise d'Elfreux. La rectrice Rachel Björk nous accueille dans cet ancien immeuble, jadis fleuron du groupe Ericsson, où désormais 376 élèves de niveau collège suivent le programme normal suédois, mais avec une petite particularité.
Notre offre est bilingue. La moitié de l'enseignement se fait en anglais et l'autre moitié en suédois. Je précise que les matières traitées en suédois sont les sciences humaines et les matières toujours dispensées en anglais, hormis l'anglais, bien sûr, sont les sciences dures, les mathématiques et la biologie. En ce qui concerne les disciplines artistiques, ça dépend de la nationalité du professeur, comme en ce moment dans les classes d'art où la professeure est suédoise.
La raison du succès de ces écoles repose donc avant tout sur des cours dispensés en anglais par des professeurs parfaitement anglophones recrutés sur place aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi au Canada ou en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas la seule raison. Les notions de respect et d'autorité sont revenues au cœur du débat, les résultats au classement PISA de l'OCDE confirmant la chute libre du niveau général des élèves. Aussi, les Suédois, clients de ces écoles, sont également soucieux de redonner un cadre plus strict que les écoles communales ont, semble-t-il, perdu. Le modèle anglais viendra ainsi offrir un palliatif.
Je pense que les parents plébiscitent notre école à cause de notre structure, de notre organisation. Nous avons des règles, nous nous assurons que les élèves les comprennent, les parents également. On ne leur enseigne pas seulement les matières académiques, mais aussi à devenir des êtres humains accomplis. Lorsqu'ils quittent notre école, ils doivent maîtriser les bons outils. They have the
correct tools with them. Une éducation stricte que confirme Mia, une élève de 6e. Elle souligne les qualités de l'établissement du haut de ses 11 ans.
Ils sont un peu plus sévères ici. On doit être silencieux, on doit écouter celui qui parle et si on ne le fait pas, on peut recevoir un avertissement, alors que dans beaucoup d'autres écoles, ce n'est pas le cas. Le professeur s'en fiche et continue son cours. Moi, je trouve cette école très bien. La nourriture est bonne, c'est très propre, avec de jolies toilettes, ce qui n'est pas vraiment le cas ailleurs. Et on a aussi beaucoup d'espace.
La liste d'attente est désormais très longue. On estime à 120 000 le nombre d'élèves qui espèrent entrer dans ces établissements. Ces écoles existent aujourd'hui sur tout le territoire, d'Umeå en Laponie jusqu'à Lund dans le sud. Jonathan Howell, en charge du marketing et de la communication, souligne le succès de la marque École internationale anglaise.
Près de la moitié de nos 40 écoles sont installées à Stockholm et nous sommes devenus très populaires ici. À cause de la forte demande, nous essayons d'ouvrir de nouveaux établissements car nous avons régulièrement des parents qui nous disent « Oh, j'aimerais tellement que mes enfants puissent y rentrer ». Cette année, on a ouvert celle-ci, mais l'année prochaine, on en prévoit 4 autres. En tout, nous en serons à 44 établissements.
Plus de 21 000 élèves fréquentent aujourd'hui ces écoles. Un développement rapide qui réjouit Henrik Levinson, professeur de sciences sociales depuis 10 ans au sein des écoles anglaises. Il avait enseigné 4 ans auparavant dans le système suédois et salue lui aussi une organisation et une structure stable. Néanmoins, il estime que la concurrence entre les établissements scolaires ne profite pas à tout le monde.
Quand on propose plusieurs opportunités, certaines familles vont saisir immédiatement la meilleure option. Mais certains parents ne sont pas au courant des différentes possibilités des options qui s'offrent à eux. C'est vrai que le système bénéficie plutôt à ceux qui sont les plus éduqués. Il y a donc une réflexion politique à mener. Comment offrir les meilleures options à toutes les familles? Car c'est toujours bien d'avoir le choix, sauf si ce sont les mieux informés qui en profitent. Take the
opportunity. Même son cloche pour Johanna Strand, patronne du syndicat des enseignants, qui estime que ce système a contribué à amplifier les inégalités. Une sélection s'opérant très tôt et qui accroît la ségrégation sociale au lieu de la réduire. Autre polémique actuelle, le groupe École internationale anglaise devrait ces jours-ci faire son entrée en bourse. Ce, alors que le Premier ministre Stefan Löfven vient de réaffirmer son opposition à tout profit dans les établissements scolaires. Un défi de taille pour le fameux modèle suédois qui se cherche encore.
Diminutif singulier. Maman, dès que c'est reparti à l'école, je vais tout tuer, vous allez voir.
Tu viens faire quoi à l'école?
Et qu'en est-il en France? Depuis quelques jours, c'est un rapport qui fait la une de la presse. Le rapport du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, jette un pavé dans la mare. Après 2 ans de travaux, des chercheurs, sociologues et professeurs affirment que le bilan est désastreux et que notre école est l'une des plus inégalitaires de toute l'OCDE. Toutes les politiques de discrimination positive ont échoué, comme l'explique Nathalie Mons, qui préside justement le CNESCO.
On sait qu'en France, on a vraiment fait confiance à une politique de façon privilégiée depuis le début des années 80, c'est l'éducation prioritaire. Cette politique, au début des années 80, visait à donner plus d'éducation, une offre pédagogique plus favorable, plus porteuse aux enfants qui avaient moins à la maison. Donc donner plus à ceux qui ont moins. C'était vraiment le credo de la discrimination positive qui était au cœur de cette politique. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on est passé dans une situation de discrimination négative dans les établissements de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que, oui, on a mis de l'argent. Il y a aujourd'hui 1,3 milliard de surcoûts attribués donc aux établissements de l'éducation prioritaire. Mais ce que nous avons pu analyser, c'est que cet argent n'est pas investi sur les dimensions efficaces de l'enseignement. Par exemple, on a réduit, certes, la taille des classes. On a deux enfants en moins dans le primaire, pareil, deux enfants en moins dans chaque classe au niveau du collège. Mais ça ne va pas permettre d'avoir des effets très significatifs sur les apprentissages des élèves. Ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir notamment dans les premières classes du primaire une baisse de 10 à 15 enfants en moins dans les classes pour avoir des petits effectifs pour conduire des apprentissages qui sont favorables. Les cours aussi sont plus courts en éducation prioritaire. Vous rassemblez beaucoup d'élèves qui sont en difficulté. Il est très difficile pour un enseignant d'arriver à conduire de façon non chaotique un cours. De la même façon, ils sont confrontés à des classes difficiles et donc les pédagogies les plus efficaces ne se mettent pas en place dans l'éducation prioritaire.
Oui. Vous dites en fait que la qualité des enseignements dispensés est moindre et qu'il y a même des effets pervers.
Oui, en fait, c'est assez paradoxal puisqu'ils étaient déjà repérés par les concepteurs de cette politique au début des années 80. Et les concepteurs de cette politique, clairement, avaient dit qu'elle ne devait être que temporaire parce qu'ils identifiaient déjà des effets pervers possibles, à savoir les effets de labellisation de l'éducation prioritaire. Je mets le nom éducation prioritaire sur un établissement. Cet effet de label va entraîner une stigmatisation, il est donc du coup repéré comme accueillant des élèves en difficulté sociale et scolaire. Les parents favorisés partent et aussi les enseignants plus expérimentés ne sont pas attirés par ces établissements. Et finalement, ces effets pervers qui étaient finalement prévus au début, sur lesquels en fait les concepteurs eux-mêmes de la politique alertaient, eh bien, ces effets pervers se sont développés.
Des effets pervers qui expliquent que les écoliers français soient si mal classés par rapport à leurs petits camarades européens. Évidemment, l'ego de la France en prend un coup, comme le pointe avec malice la sociologue spécialiste de l'éducation Marie Durubella.
On est moyen. Alors ça, évidemment, ça fait mal. Et ce qui fait peut-être encore plus mal, c'est de voir que certains pays s'améliorent, alors que nous, on n'y arrive pas. On a plutôt des problèmes de détérioration des performances des élèves, notamment les élèves les plus faibles.
Et oui, comment peut-on expliquer que l'école, finalement, amplifie les inégalités sociales et les chances de réussite ?
Ben parce que il y a des élèves qui profitent mieux de ce que propose l'école. L'école propose des choses aux élèves qui sont souvent d'ailleurs passionnantes, feuilleter les manuels des enfants, on se dit oh là là, c'est super, c'est très intéressant, mais il faut pouvoir en profiter. Donc il faut pouvoir avoir des bases. Alors, on a un problème, nous, à l'école élémentaire en France, qui est très important, c'est un problème d'apprentissage de la lecture, on le sait depuis des décennies. Quand on ne sait pas lire, donnez-leur des super manuels sur l'Antiquité grecque, ben, ils ne vont pas en profiter, évidemment. Et ce qui fait que certains enfants vont ramer pendant toute leur scolarité, maintenant on va les garder, on va les faire passer d'une classe à l'autre, mais ils ne vont pas profiter de ce que l'école leur apporte. Or, comme ces enfants sont plutôt des enfants qui viennent de milieux sociaux qui sont moins familiers avec l'école, avec l'écrit, avec la langue française, eh bien, on va, avec nos programmes très exigeants et dont on est très fiers, eh bien, amplifier ces différences.
Vous observez d'ailleurs que, contrairement à d'autres pays en Europe, les performances des élèves dépendent beaucoup du milieu familial.
Oui, il y a des pays où ils dépendent moins. Disons que ce qui me paraît assez français, c'est un certain fatalisme. Si on interroge les enseignants sur même les inégalités sociales, on leur demande de faire des pronostics sur ce que vont devenir leurs élèves, eh bien, il y a en France un certain fatalisme. On est très conscient des inégalités sociales et donc on a des attentes par rapport aux élèves qui vont être moins élevées dans les contextes populaires. On se dira, ben oui, avec le public qu'on a, etc., etc. Et les enseignants vont adapter, évidemment, on saurait leur reprocher, leur pratique à cette représentation qu'ils ont des élèves comme moins capables. Or, il y a des pays, notamment les traditions asiatiques, on a souvent l'exemple du Japon ou de la Corée, on est persuadé que tout le monde peut y arriver, au moins jusqu'au niveau de PISA, 15 ans, après, c'est la bagarre, mais on est persuadé qu'ils peuvent tous y arriver. Et donc, ça paraît normal, les élèves s'entraînent, les profs sont persuadés de ça, et on se mobilise, alors que chez nous, On dit, ben oui, c'est vrai, Bourdieu l'a montré, il y a des inégalités. Et voilà, je pense que ça, c'est un facteur qui joue. Un autre facteur, c'est évidemment qu'on ne forme pas les enseignants avec autant de sérieux que dans beaucoup d'autres pays. Hein. Nous, la pédagogie, c'est la cerise sur le gâteau, trop souvent.
Alors, quelle serait la solution, finalement? Pourtant, là, les élections présidentielles approchent et tous les candidats parlent d'une réforme de l'éducation, qu'il doit y avoir une réforme de l'éducation. Et c'est cela à chaque élection présidentielle.
Et oui, et ça, le rapport le pointe avec malice, si on peut dire. Il y a trop de réformes. Évidemment, il y a trop de réformes. Chaque ministre va faire sa réforme ou ses réformettes. Les enseignants font le dos rond et puis ils attendent que ça se passe. Vous savez, les réformes, encore faudrait-il voir si elles sont appliquées. Il y a eu beaucoup de mouvements contre la réforme du collège. Tiens, on n'en entend plus parler. Et pourquoi est-ce qu'on n'en entend plus parler? Parce que chacun fait ce qu'il veut dans son coin.
Marie Durubella, qui a sorti au Seuil l'an dernier avec son collègue François Dubé, 10 propositions pour changer d'école.
Jeunes européens, jeunes européennes.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Bonjour Evino.
Bonjour Catherine.
Alors des jeunes, on en parle encore, mais ces derniers sont sortis de l'école. Des jeunes européens, Eve, qui voulaient se confronter directement au président de la Commission, Jean-Claude Juncker, via YouTube. L'idée était séduisante, hein, car les différents sondages ne cessent de montrer que les 18-30 ans font de moins en moins confiance à l'Europe. Mais l'histoire a tourné au fiasco, et c'est Laetitia Nagy qui a dénoncé dans une vidéo, il y a quelques jours, hein, les pressions qu'elle avait subies.
La jeune femme tient une chaîne vidéo qui parle de son mode de vie écolo-bio, comme elle le décrit. Elle-même. Elle faisait donc partie de ces jeunes chanceux appelés pour poser quelques questions au président Juncker. Et parce que ces sujets-là l'intéressent, mais qu'elle voulait mener sa tâche aussi bien qu'elle le pouvait, elle a demandé de l'aide aux internautes et à d'autres youtubeurs plus connus pour leurs analyses politiques, comme par exemple la chaîne Osons Causer. Et de ce travail en commun, elle a tiré une liste de questions qu'elle a soumis à Google, la maison mère de la plateforme YouTube, 2 jours avant l'interview. La suite, elle la raconte elle-même.
Au moment de préparer l'interview avec YouTube, je me suis rendu compte qu'ils attendaient de moi que je pose des questions super lisses et que le but de tout ça, en fait, c'était de faire une grosse publicité à Juncker. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, à la base, YouTube m'avait promis que je pourrais poser les questions que je voulais. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions importantes qui passaient pas très bien. Je me suis rendu compte que YouTube cherchait à m'influencer gentiment. Puis, c'est allé un petit peu plus loin et je me suis sentie menacée à un moment donné.
Donc finalement, 2 jours plus tard, la jeune femme décide de ne pas tenir compte des remarques de Google et pose en direct les questions telles qu'elle souhaitait le faire initialement. Et voici ce que cela a donné.
Votre prédécesseur au poste de la Commission européenne, Monsieur Barroso, a rejoint cet été la Goldman Sachs. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Pourquoi est-ce que cette banque-là en particulier pose problème ? Est-ce que quand il avait son rôle de président, il n'a pas été complaisant peut-être avec son futur employeur ? Ou est-ce que maintenant qu'il occupe un poste dans une banque privée, il n'est pas arrivé avec dans ses poches des secrets d'État ? Par exemple, il a été montré notamment que le Luxembourg a permis dans le plus grand secret à des multinationales comme McDonald's ou comme Pepsi de rapatrier tous leurs profits réalisés dans les pays d'Europe et de ne payer au final qu'un pour cent d'impôts.
Alors voilà, comme vous pouvez l'entendre, Laetitia a abordé ce jour-là tous les sujets qui fâchent, hein, du traité transatlantique à la lutte contre les paradis fiscaux, en passant par les liens qu'entretiennent certains ex-membres de la Commission européenne avec les plus grandes banques du monde. Et ça n'est pas passé inaperçu.
Et alors, ces fameuses menaces, est-ce qu'elles ont été appliquées au lendemain de l'interview ?
Eh bien, étonnamment, bien au contraire, Google, qui a sûrement eu peur de ternir sa réputation, l'a félicité et lui a même promis un nouveau contrat d'ambassadrice qu'elle a finalement décliné. Elle raconte pourquoi dans la vidéo que vous pouvez aller regarder sur son site. Mais au-delà de l'anecdote, cette histoire aura marqué les esprits et a largement été reprise dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de saisir toute la complexité des rapports de lobbying qu'entretiennent les grandes entreprises privées avec la Commission européenne. Parce qu'elle rajoute aussi une couche d'opacité à la communication bruxelloise, car on ne sait toujours pas aujourd'hui qui du géant américain ou de la Commission européenne a pris l'initiative de cette rencontre. Et enfin, parce que les pressions qu'a subies la jeune youtubeuse donnent une bonne idée du manque de considération et de respect dont la jeunesse européenne aujourd'hui se plaint. Elle a l'impression de faire l'objet, en tout cas. Bref, cette journée d'interview n'aura certainement pas réconcilié les jeunes avec l'Europe, bien au contraire.
Merci Eve, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent, c'est déjà fini à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un peu de patience, les infos.